Expression libre.
Expression libre.
Voici la bande-annonce du documentaire.
À la fin de cette semaine, quelques 2000 personnes étaient confinées à domicile. Mais comment être sûr qu'elles appliquent bien la mesure ?
Dimanche matin, j'étais au lit, là, en train de dormir. Ça sonne à la porte. Je crie « Oui, qui c'est ?» Et puis ils me disent « Police !»
Voilà, voilà, regardez bien, regardez bien, regardez bien. On a donné notre carte d'identité, vous voulez quoi de plus ?
Maintenant, vous avez deux possibilités. Vous pouvez quitter la localité, comme je vous ai dit, ou vous pouvez vous venez chez nous, vous êtes arrêté par la police.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours présenté cela dans la version du pire.
On crée le sentiment, d'abord, qu'il y a des risques énormes, que si on ne fait pas ceci ou cela, on fait courir des risques aux autres.
Aujourd'hui, la police est sur le terrain.
Sur quoi arrivent des ribambelles de flics de tous les côtés.
Je me dis, madame, le masque, enfin, voilà. Je dis, mais enfin, je suis toute seule, quoi. Je veux dire, et je suis asthmatique, et en plus, je suis en train de sortir. J'étais à 10 mètres de la sortie.
À deux, ils m'ont sorti, ils m'ont chopé les deux bras, sorti de la bagnole, écrasé la gueule par terre, et pff, ça y allait, costaud.
J'ai été chargée, j'ai eu 4000 francs d'amende, et 5 mois de prison avec 2 ans de sursis.
Daniel Jeannin est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours à mois, avec sursis pendant 2 ans.
On m'a demandé de choisir entre la mise à pied, la démission ou le licenciement.
Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens qui ont accepté cela ?
Si on n'accepte pas la discussion et qu'on ne donne qu'une seule opinion, c'est une dictature.
Bonjour, chers radiolibristes. Aujourd'hui, nous accueillons Daniel Kunzi, qui est réalisateur de films et de documentaires, pour un travail qu'il a pris pendant 2 ans au sujet du Covid. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Charlie.
Alors toi, pendant la période du Covid, je pense que tu as été un peu choqué à un moment pour que ça déclenche chez toi cette envie de faire un documentaire. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment cette idée de projet a démarré et quelles ont été les motivations ?
Bon, merci de me donner la parole. Écoute, j'ai, comme tout le monde, été un peu surpris par l'alarme, le tocsin qui a sonné, disons au mois de janvier et février, puis ensuite fermeture des écoles, etc. Bien, je suis pas le dernier des naïfs, j'avais déjà vécu ce genre d'appel à la catastrophe avec les H1N1, etc. Tous les 5 ans, l'alerte générale est donnée. Mais cette fois, c'était quand même atypique. Et alors, je me suis replié à la montagne, et puis j'observais la situation du haut de mes sommets. Et finalement, j'ai remarqué que autour de moi, enfin le bon sens même, personne n'était touché. Et puis, ça m'a incité, moi qui n'avais jamais fait ça, à aller regarder dans les statistiques de l'Office fédéral de la santé publique et de l'OFS aussi plus généralement. Et j'ai remarqué que la mortalité n'était pas telle qu'on pouvait supposer être quand on regardait chaque jour la télévision et les médias. Et finalement, le 13 août, le matin dimanche, on fait ça une, la mortalité pour le premier semestre, qui devait être catastrophique, de l'année 2020, a été inférieure à la mortalité de l'année 2019, qui était une année exceptionnelle pour la longévité. Alors là, je me suis dit, non, on nous mène en bateau, il faut que je fasse quelque chose. D'autant plus que ces mesures restrictives de liberté, des atteintes aux droits fondamentaux, mes élèves ne pouvaient pas retourner à l'école et je ne pouvais pas enseigner, par exemple. C'était vraiment de l'inédit et je me suis dit, mais c'est quand même pas une période tout à fait nouvelle en Suisse que le Conseil fédéral reçoive les pleins pouvoirs du Parlement et gère la situation à coup de décrets spéciaux, décrets urgents, etc., etc. Ça m'a rappelé l'épisode de 1939, quand au mois de septembre, le Parlement, à l'unanimité, sauf erreur, donne les pleins pouvoirs au Conseil fédéral, qui va réintroduire la peine de mort pour les tribunaux militaires, qui va interdire la presse qui ne lui plaît pas, qui va introduire aussi l'impôt fédéral direct, sans discussion au Parlement. Enfin, toute une, environ 1000 décrets ont été votés entre 39 et 49. Alors, je me suis dit, je vais quand même me plonger sur cette affaire pour essayer de faire un parallèle avec la situation qu'on vit maintenant et aussi pour savoir comment on est sorti des pleins pouvoirs lors de la crise 39-49 et comment est-ce qu'on peut sortir de la crise maintenant. Et ça m'a amené à chercher patiemment des témoins qui m'ont expliqué quand même, parce qu'il n'y a aucun livre systématique sur l'affaire des pleins pouvoirs en Suisse entre 39 et 49. Et j'ai donc appris, à ma grande surprise, parce que celui qui s'adresse à vous est un naïf, que ce n'est pas la gauche qui a réclamé le retour de la démocratie directe, mais l'extrême droite, en l'occurrence la Ligue vaudoise, qui va faire une initiative constitutionnelle qui est encore permise à l'époque, qui est rejetée par tous les partis qui traînent les pieds pour la voter, et finalement, le 11 septembre 1949, contre l'avis de tous les partis, contre l'avis de l'Union syndicale suisse, du Parti communiste, de l'Union suisse des paysans, le peuple va refuser les pleins pouvoirs et ce sera le retour de la démocratie directe en Suisse. Voilà, j'ai voulu explorer ça pour avoir un parallèle historique que je mets dans mon film.
Un parallèle historique aussi. En tout cas, merci d'avoir donné la parole. Donc, on était à peu près, je pense, 30% de la population à être critique un peu pendant cette crise du Covid. On a été passablement muselé et plutôt maltraité. D'ailleurs, ton documentaire en atteste. Ce qui m'a marqué, c'est que les gens que tu as interviewés, tu vois, comparé à ce qu'on... comment ils étaient dépeints dans les médias, c'était des gens que tu as interviewés qui ont la tête sur les épaules, qui sont des gens posés. Et puis, toi, est-ce que tu avais un a priori là-dessus ou est-ce que tu savais déjà que ce milieu avait été mal dépeint ou comment ça s'est passé avec les contacts que tu as eus? Est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé aussi de témoigner?
Non, ce film lève un tabou. On n'a jamais été interviewé sérieusement les personnes qui ont été victimes de ces mesures grotesques et parfaitement dictatoriales. Par exemple, j'ai assisté à un procès d'une femme qui a été condamnée finalement à 3 jours amende pour ne pas avoir porté un masque. Et ça a donné lieu à une audience au tribunal public de 3 heures avec un juge, un assesseur, etc., qui convoque le flic qui a amender cette femme, etc., pour un masque. Et puis ensuite, on s'étonne que les tribunaux soient surchargés. Ça m'a fait rigoler, ça. Et puis, son amende est passée de 600 francs à 400 francs pour ne pas avoir porté un masque dans l'espace public lors d'une manifestation autorisée. Et c'est tout simplement grotesque. C'est pour ça que j'ai voulu traiter cette question de manière grotesque, parce que bon, on n'est pas en Iran. En Iran, si vous ne mettez pas votre tchador, vous risquez d'être raccourci d'une tête. Mais en Suisse, si vous ne mettiez pas votre masque, vous pouviez être condamné, comme une femme que j'ai interviewée, à 5 mois de prison avec sursis et, sauf erreur, 6 000 francs d'amende. Voilà, pour ne pas avoir porté un masque. Et alors que le médecin cantonal Genevois, pour prendre un exemple que je cite dans mon film, dit que le masque est inutile en plein air, voire dangereux. Donc, c'est parfaitement grotesque. En fait, les gens que j'ai filmés, c'est pas du tout des gens, des militants de gauche, sauf un, c'est des gens qui simplement font preuve de bon sens, sont rationnels et désobéissent.
D'accord. Et on voit aussi que c'est pas des cas isolés. Hein. Je crois que tu parles dans ton documentaire des chiffres pour Genève que tu as eu. C'est plus de 8000 procédures pour non-respect de la loi Covid. Donc, c'est pas des cas isolés. Il y a eu des milliers, donc probablement à l'échelle de la Suisse, des dizaines de milliers de procédures qui ont engorgé les tribunaux pour ce genre d'affaires. C'est bien ça?
Évidemment, alors, on peut me reprocher de faire un film mal documenté, naturellement, vu que c'est un tabou. Pour obtenir les seuls chiffres du canton de Genève, déjà, je me suis adressé évidemment à l'Office fédéral de la statistique qui vous qui notifie combien de vols de voitures, combien de viols, etc., etc. Pour les infractions à la loi Covid, rien. Donc, alors, vu que j'habite à Genève, je me suis renseigné auprès du Conseil d'État. Mais évidemment, Mauro Poggia a refusé de me voir. Donc, on m'a conseillé de lire le rapport Covid du Conseil d'État, 300 pages, pas un seul mot sur les infractions à la loi Covid. On m'a ensuite suggéré de demander aux tribunaux. Les tribunaux m'ont fourni leur rapport annuel, rien sur la loi Covid. Le Covid apparaît évidemment pour mentionner que beaucoup de juges, personnels administratifs, etc. ont été malades du Covid, mais pour les infractions, rien. Finalement, on m'a dit, mais adressez-vous à l'office cantonal de la statistique. Ils ne tiennent pas de statistiques sur le sujet. Ensuite, je me suis adressé à la police, vu que c'est eux qui sont à la source. Je leur ai demandé, mais combien d'amendes, ordonnances, etc., emprisonnement aussi. Ils m'ont répondu un chiffre ridicule, 400 et quelques, alors que le BLIC avait publié des chiffres nettement plus élevés pour les 6 premiers mois. Et finalement, en insistant, on m'a dit « Ah non, pour l'année 2020, c'est 4000 et quelques, et pour l'année 2021, c'est aussi 4200, etc. » Ce qui fait que pour les deux premières années, on en est à 8400, grosso modo. J'ai demandé « Mais combien de personnes ont été emprisonnées ?» Oh, on m'a pris pour un imbécile, mais M. Kuhn dit « Mais personne n'était emprisonné pour une infraction à la loi Covid. » J'ai dit, mais regardez bien dans vos geôles, vous allez peut-être trouver quelqu'un, en particulier les civilistes, qui ont eu le malheur de vendre ou de distribuer des faux passes, qui ont été emprisonnés et maintenus en détention, si j'en crois la presse, pour éviter toute collusion. Et la police m'a répondu, ah oui, c'est vrai, on va voir, on va voir. Ben, ils ont peut-être vu, mais moi, on n'en a rien rapporté. Donc, évidemment, c'est un tabou. Si on prend en considération le canton de Saint-Gall, il y a eu la distribution ou la fabrication de 8000 faux passes. À Genève, j'ai pu interviewer quelqu'un qui a eu le courage de témoigner. Pour son faux passe, il a chopé 1500 balles d'amende environ, plus une inscription pour 2 ans dans son casier judiciaire pour faux dans les titres. Ce qui fait que le type, il ne trouve pas de boulot. Puis évidemment, il ne faut pas espérer trouver un travail à la banque ou à l'État de Genève avec une condamnation pour faux dans les titres. Toutes ces choses-là sont passées sous le radar de la presse.
Ouais, c'est ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'il y avait une sorte de disproportion entre ceux qui étaient contre les mesures Covid et de l'autre côté, on voyait qu'il y avait énormément de vigiles de sécurité, des CFF, de supermarchés, on le voit dans ton documentaire, des policiers qui exercent une véritable violence sur les manifestants, sur les personnes qui portent leur masque jusque-là. Une violence physique, une violence qui se termine après au poste de police, qui se termine avec des constats médicaux. Et puis moi, quelque chose qui m'a un peu choqué, c'est Mathias Reynard en Valais qui a, donc on le voit dans ton documentaire, il a payé des avocats pour traquer des gens qui ont liké des commentaires défavorables à son égard, considérant que c'était des menaces contre sa personne. Et ce même Mathias Reynard ne fait rien, par contre, il y a des citoyens valaisans dans ton documentaire qui témoignent qu'ils ont été brutalisés. Mathias Reynard, donc qui est socialiste, et puis le slogan des socialistes, c'est « sans privilège pour tous », apparemment, sauf la justice. Mathias Reynard ne s'élève pas en protecteur, en défenseur de ces citoyens valaisans qui ont été maltraités de manière complètement disproportionnée. La disproportion qui est flagrante. Hein. Je me rappelle avoir été témoin à Berne. C'était une manif fin décembre, justement, à Berne. Il y avait une cinquantaine de personnes qui ont été dispersées par la police de manière très violente. Une jeune femme a été plaquée au sol. Elle était en état de choc. Elle aurait eu besoin d'une cellule de soutien psychologique alors qu'ils étaient complètement pacifiques. Et puis moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir qu'il y avait de la violence policière, mais que circuler, il n'y avait rien à voir. Et le plus choquant ce jour-là, c'est que, aussi quelqu'un le dit dans ton documentaire, mais je ne vais pas tout spoiler, hein, mais c'est que c'était le dernier week-end pour faire le shopping de Noël, et qu'il y avait les 50 manifestants qui étaient sur toute la place fédérale, donc qui était assez dispersé. Et à côté, une rue plus loin, les gens étaient complètement compactés pour faire leur shopping de Noël. Et ça, c'est très bien que ton documentaire le montre et que c'était vraiment deux poids, deux mesures, quoi. Et très politisé, on a l'impression. Et puis, ça m'a donné aussi le sentiment que certains un peu... certaines personnes un peu zélées comme ça, on est profité pour se sentir avoir tous les pouvoirs, pour un peu abuser de leur pouvoir de service de l'ordre, de leur pouvoir policier sur des citoyens, avec une sorte d'abus de pouvoir, quoi.
C'est pour ça que je pose la question dans le sous-titre de mon film « Totalitarisme helvétique ». Point d'interrogation, parce que j'ai encore en mémoire le discours qu'avait tenu Dürrenmatt, la venue de Václav Havel à Berne, qui avait rappelé qu'en Suisse, dans chaque Suisse, il y avait un prisonnier et un geôlier. C'est extraordinaire, tout à coup, le pouvoir qu'a pu prendre la police. Pour un oui ou pour un non, on vous collait une amende, on vous disait faites ceci, faites cela. Et ça a dégringolé ensuite à la Migros. N'importe quelle vendeuse pouvait vous dire maintenant mettez votre masque, tenez votre distance sociale, sans parler de tous ces contrôleurs CFF qui ont malmené je ne sais combien de milliers de citoyens de notre pays. C'était un climat absolument digne d'une dictature. Et évidemment, il y a les cas extrêmes. Je fais parler dans mon film Daniel, un écuyer donc, qui est petit et maigre, qui a le malheur de ne pas présenter spontanément son masque, qui se fait brutaliser violemment par la police, casser ses lunettes, emmené au poste de police, mis à nu, etc., etc. Et quand il dépose plainte contre la police, en dépit du fait que le chef de la police estime que le traitement qu'on lui a infligé était abusif, eh bien, c'est lui qui est condamné et les flics qui l'ont malmené reçoivent chacun 10 000 francs d'indemnité. C'est grotesque. C'est injuste. Mais c'est aussi tellement pour un masque.
Ah oui, c'est totalement... c'est injuste, je crois, on peut le dire comme ça. Et c'est un système qui s'auto-protège. Ouais, c'est un système qui s'auto-protège.
C'est pour ça que j'ai voulu faire le parallèle avec la fameuse pièce de théâtre de Jules Romain, le docteur Knock. Parce que c'est tellement que les mots ne suffisent pas. C'est pour ça que j'ai eu recours à des guignols aussi pour mettre en avant le côté parfaitement grotesque. Un jour, il faut mettre les masques, le lendemain, il ne faut pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est ça le pire. Des individus rationnels, comme notre conseiller fédéral Uli Maurer disait, il ne faut pas devenir hystérique. Mais ma foi, il n'avait pas la majorité. Ou maintenant, c'est Cassis qui disait aussi, mais c'est pas la première épidémie qu'on voit, restons calmes. C'est pour ça que j'interviewe dans mon film également une brave femme libérale qui a la tête sur les épaules, puis qui est rationnelle, Suzette Sandeau, ou le journaliste Jacques Pilet, qui regarde les choses avec un peu de recul, puis qui se pose la question, mais comment a-t-on pu accepter ça?
Voilà, c'est vrai que c'est... Ton documentaire ne contient pas que des témoignages de victimes ou de gens qui étaient contre les mesures, mais aussi de sortes de personnalités qui s'étaient un peu élevées contre ça, qu'on a rarement vu aussi dans les médias. Hein. On les a rarement vus. En tout cas, les personnes qui ont témoigné, je pense qu'elles sont jamais passées par la RTS. Est-ce qu'il y a des médias qui s'étaient intéressés à eux, à leur cas, avant que toi, tu ne les contactes?
Non. Mais nous vivions à l'heure de l'union nationale, si ce n'est l'union sacrée, il n'y avait la parole que pour ceux, les béni-oui-oui du Conseil fédéral et de Pfizer. Hein. Alors heureusement, Jacques Pilet, lui, dirige un hebdomadaire bon pour la tête qui est sur Internet, qui lui avait les pieds sur terre et décrivait la situation telle qu'elle était, à savoir... une épidémie qui n'a finalement frappé en Suisse qu'une personne sur 1000 mortellement.
Et dans le fait que les autorités aient refusé de te répondre, hein, que ce soit Berset, Poggia, Genève, est-ce pour toi c'est une fuite de leur responsabilité? Est-ce que tu sens que de leur côté il y a quand même un malaise ou pourquoi?
Après avoir été encensé par les médias pendant 2 ans, ces gens-là ne sont pas prêts à affronter leurs responsabilités et avoir en face d'eux un esprit quelque peu critique et sceptique. Il faut se souvenir de la comédie que représentaient les conférences de presse du Conseil fédéral. Hein. Le journaliste adressait sa question écrite un jour avant, le Conseil fédéral avait la réponse écrite et le journaliste ne pouvait pas dupliquer. La parole était au suivant. C'était un exercice théâtral, mais personne n'en était au courant. Poutine doit faire la même chose, hein, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont choqué? Est-ce qu'il y a d'autres choses que peut-être que t'aurais voulu traiter, que t'as pas eu le temps, que t'as dû laisser de côté?
Oui, moi j'ai traité l'aspect de totalitarisme, entre guillemets, la répression féroce, parce que c'est une répression féroce, enfin, les atteintes fondamentales aux droits de l'homme, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est la Suisse qui a été désavouée par la Cour européenne des droits de l'homme suite à une plainte des syndicats genevois. Ça, je l'ai traité comme je l'ai pu, mais j'aurais bien voulu examiner maintenant, mais le chapitre est plus étoffé peut-être encore, l'aspect des effets inattendus ou délétères ou mortels des fameux bouillons Pfizer et Moderna.
D'accord, ouais.
Mais là-dessus, j'ai essayé d'avoir quelques témoignages impossibles.
Ouais, c'est très compliqué parce que c'est des gens qui sont eux-mêmes très affectés dans leur santé et qui ne se sentent pas la force de témoigner, en tout cas pas maintenant. Et puis...
bon, j'ai aussi cherché désespérément de connaître le sort de ces malheureux qui ont voulu se faire quelques sous ou qui ont voulu aider leurs copains, les civilistes et autres qui ont distribué des passes. Aucun n'a voulu parler. Et je ne sais pas où en est maintenant la procédure judiciaire à leur encontre.
D'accord.
C'est une lacune du film, mais ma foi, moi j'ai travaillé avec les moyens du bord, avec l'aide d'une série de personnes bien informées comme toi, et puis voilà, je suis arrivé à ce résultat après 2 ans.
Mais d'ailleurs, t'as aussi eu l'occasion de parler à cette employée de Suisse hein, qui avait été mise à pied parce qu'elle avait refusé le vaccin.
Disons, c'était extrêmement difficile. Elle n'a pas été stricto sensu mise à pied. On lui a dit, elle a été dégradée. On lui a dit, vous ne volerez plus. Elle qui avait une expérience magnifique de décennies comme hôtesse de l'air de premier ordre, on lui a dit, maintenant vous allez vous occuper des bagages à terre. Voilà. Bon. Et puis peut-être l'étape suivante, ça serait nettoyer les chiottes, je ne sais pas ce qu'on lui réservait. Mais comme elle arrivait près de l'âge de la retraite, elle a préféré prendre une retraite anticipée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de 300 employés de Suisse qui ont été licenciés et qui après, alors je ne sais pas leur destin, mais personne n'a voulu témoigner.
D'accord. Et Suisse était la seule entreprise en Suisse qui a pratiqué cette ségrégation?
À cette échelle, oui. Ben, il y a l'armée suisse, il y a le cas de quelques soldats. Dans les hôpitaux aussi, hein, j'ai interviewé plusieurs... femmes qui ont été licenciées, tout simplement. Mais alors, ça, c'est encore une fois, hein, comme je le fais remarquer dans la présentation de mon film, il faudra que les historiens s'occupent de cette affaire parce que le tabou est encore trop fort aujourd'hui.
Et tu parlais de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a peut-être une anecdote, c'est qu'il y a eu une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui disait que le manifester pacifiquement est un droit fondamental. Donc, ça avait été confirmé parce qu'il y avait eu un recours là-dessus. Donc, c'est dans la Convention européenne des droits de l'homme, ça a été confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme. On avait vu Ignacio Cassis, pendant les événements en Biélorussie, s'offusquer de la violence policière sur les manifestants. Un journaliste suisse là-bas avait été arrêté. Il s'en était offusqué officiellement. Et la même chose quasiment se passait sous ses fenêtres à Berne. Et là, c'était le silence radio. Et plus personne n'avait, on n'avait pas l'impression, plus personne n'avait savait que c'était légal de manifester pacifiquement. Ouais.
Avec la palme, parce qu'il faut quand même le retenir, au conseiller national Carlos Somaruga, qui osait qualifier les manifestants qui a eu le malheur d'agiter les barrières qui protégeaient le palais fédéral de mini-terroristes. Voilà
Ah oui.
tel était le climat.
Et ça, c'était une magnifique mise en scène aussi. C'est que y a eu plein de manifestations avant et personne n'a touché le palais fédéral sans barrière. Il y a eu des manifestations après, personne n'a touché le palais fédéral sans barrière. Mais ce jour-là, et on a l'impression qu'ils cherchaient vraiment l'image qui permettrait de leur faire dire que les manifestants sont des gens violents, à l'instar de ce qui s'est passé au Capitole. C'est une sorte de mise en scène, donc.
L'intervention, moi, j'ai assisté. J'avais pas de caméra dans la main. J'avais deux cabas au marché de plein palais. Il y avait quatre femmes disposées à 4 mètres de distance qui manifestaient pour le climat. Quand soudain, il y a une escouade de flics casqués avec avec leur spray anti, à poivre, équipement anti-émeute qui viennent les cueillir. Si c'est pas une provocation d'agir comme ça de la part de la police, alors je ne sais pas ce qu'est une provocation. Alors qu'elles manifestaient pour le climat à 4 mètres de distance, elles avaient fait leur carré d'un mètre autour, 1,50 m autour, bah, du délire.
Mmh. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est justement les forces de police, comme c'est au niveau cantonal, sont un peu politisées et qu'en fonction de qui est le Conseil d'État responsable de la police, les réactions sont différentes. Je me rappelle qu'à Fribourg et à Neuchâtel, les policiers étaient beaucoup plus discrets, beaucoup plus distants, et il n'y a pas eu les mêmes abus qu'on a pu observer à Berne, par exemple.
Ah, certainement. À Genève, c'est traditionnel, on a les pires cow-boys, mais là, en l'occurrence, ils avaient les mains libres. Mauro Poggia les couvrait alors totalement. Mais il y a aussi, parmi la police, il y a aussi des gens qui raisonnent et qui ont une éthique. J'interviewe dans mon film, justement, un de ces policiers zurichois qui a été injustement licencié simplement parce qu'ils ont fait un blog pour rappeler aux citoyens quels sont leurs droits vis-à-vis de la police. Ça existe aussi.
Oui, c'est incroyable. En Suisse, dans les années 2020, 2023, des choses pareilles peuvent se passer. Donc, en tout cas, un grand merci. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que sortira ton documentaire? Quel est le plan de route? Et puis, où est-ce qu'on pourra le voir?
J'espère qu'on pourra voir mon film comme mes précédents, à savoir à la télévision suisse romande et à la télévision suisse allemande. Mais et sinon, au cinéma, puis après, dans tous les réseaux sociaux, quoi. D'accord. Il est fait pour être vu.
Est-ce que tu as déjà eu des contacts justement avec les télévisions, les salles de cinéma?
La télévision n'est pas pressée de me répondre. Ils disent qu'ils attendent l'avis des experts fédéraux. Et les experts romans ont déjà estimé que le film était non pas nul, mais archi nul. J'ai perdu 7-0. Je suis la honte de Genève. J'ai perdu 7-0 contre les experts romans.
Comment ça se passe? Les experts, c'est quoi?
Il y a deux institutions qui financent le cinéma en Suisse. Il y a 83 millions pour le cinéma en Suisse. Il y a deux institutions qui font la pluie et le beau temps. C'est Cinéforum, l'organisme roman de production cinématographique qui boycotte, et l'Office fédéral de la culture à Berne, qui me boycotte aussi. D'accord. Si vous ne parvenez pas à faire partie, je ne dirais pas de la mafia, parce que je pourrais chagriner certains de mes collègues, si vous ne faites pas partie de cette classe-là, vous n'avez aucune chance.
D'accord. Et toi, est-ce que tu avais déjà eu des problèmes similaires pour d'autres documentaires ou films que tu avais fait précédemment?
Toujours. Ouais. Toujours.
Ah, toujours.
Ben oui, évidemment.
Parce que tu choisis des sujets controversés, c'est ça?
Comme un interprète que j'aime beaucoup, Glenn Gould, le dit, si c'est pour interpréter une fugue de Bach comme les autres, ça ne sert à rien de se mettre au piano. Moi, je dis, si c'est pour traiter un sujet qui a déjà été traité une fois ou 10 fois, ça ne sert à rien que je sorte ma caméra. C'est pour ça que tous mes films sont frappés du sceau de l'originalité.
Magnifique.
Dis modestement.
Dis-moi destinement. Alors, donne-nous ton site internet pour que les gens puissent se rendre compte de ton travail.
C'est GKUNZI, dkunzi.ch. D-K-U-N-Z-I, worldcom.ch.
Dkunzi, est-ce que c'est .worldcom.ch ou...
Voilà, c'est égal, je crois.
C'est égal.
On va même trouver comme ça.
Donc, Daniel Kunzi. Un grand merci. Est-ce que tu as encore des choses à ajouter, peut-être pour les générations futures, pour les autres?
Alors, j'espère que les historiens qui vont étudier cette période passeront déjà au crible la période 39-49 où le gouvernement suisse gouvernait par décret urgent et de nécessité.
Ah ouais, ça c'est déjà dingue qu'il n'y ait pas eu de travail historique qui a été fait là-dessus.
Rien. Quelques pages par-ci, quelques pages par-là dans un traité de droit constitutionnel. Sinon, rien de systématique.
Les rois du tabou, c'est nous. Et puis, je voulais te dire aussi, tu as travaillé aussi avec tes enfants hein, sur le film. Tu les as impliqués un petit peu.
Non, ce n'est pas mes enfants, c'est des amis paysans.
Ah, c'est des amis paysans, d'accord. C'est
un film sur les paysans jurassiens.
Ah, d'accord. Ok, donc il donne ce regard un peu comique avec le docteur Glock. Voilà, Glock. Magnifique. Alors, un grand merci.
Merci à toi particulièrement, Charlie.
Et puis, on se retrouvera.
Et bonne fin d'été.
Merci beaucoup à toi aussi. Et puis, on se retrouvera pour la première.
Avec joie. Allez, bonne fin de journée.
Toi aussi, merci.
Et voici le bonus littéraire.
Daniel, on fait un petit bonus pour les auditeurs et puis ceux qui regardent la vidéo. Tu as beaucoup de livres derrière toi, donc je pense que tu es un grand lecteur. Et puis, tu as certainement quelques ouvrages à conseiller, des lectures un peu indispensables pour comprendre certaines problématiques.
Oui, alors certainement. Comme vous ne le voyez peut-être pas, j'ai plusieurs mètres de rayonnage des livres de Léon Trotsky. C'est utile pour comprendre ce qui se passe en Ukraine, par exemple, sur la manipulation des petits États par l'Empire ou par l'impérialisme. Mais pour notre affaire de santé publique, le type qui vous parle juge tout aussi important mes deux maîtres de livres sur Trotsky égale ce livre-là de Pete Goetsche, à savoir « Ces médicaments qui tuent ». Ça m'a ouvert les yeux d'une manière sensationnelle parce que moi, j'avais aucune connaissance médicale. Hein. Et ce livre-là, franchement, une fois que vous l'avez lu, vous comprenez les dessous de l'affaire.
Ensuite, donne-nous le titre là pour les auditeurs radio.
Remède mortel et médicament qui tue.
Et crime organisé, hein, voilà.
Peter Goetsche, c'est lui qui a créé un réseau mondial de surveillance médicale de médecins bénévoles, auquel participe d'ailleurs Didier Raoult. Et bon, j'ai eu la chance de rencontrer Christian Perron. C'est très intéressant. Grosso modo, c'est avec lui que j'ai appris l'essentiel sur un vaccin, à savoir qu'il faut 10 ans pour préparer un vaccin, pour être sûr, un, qu'il fonctionne, et deux, qu'il n'ait pas d'effet indésirable. Il en a écrit 3 hein, sur le même sujet. Et j'ai eu la surprise cet été de trouver sur l'autoroute le livre du médecin fétiche et conseiller de Macron, Didier Pittet. C'est quand même intéressant de voir comment il a dû louvoyer parce que ce médecin aux mains propres défendait et a toujours défendu l'inutilité du masque dans la sphère publique, en dehors de chez soi.
Donc ça, c'est vaincre les épidémies de Didier Pittet. Voilà.
Oui, c'est ça. J'ai acheté 4 euros dans une station-service sur l'autoroute dans le sud de la France. Il est rigolo, le livre. Mais alors, évidemment, celui qui m'a le plus impressionné, pas seulement médicalement, c'est Didier Raoult, hein. Alors Didier Raoult est exceptionnel, hein, je me suis démarche tout à fait extraordinaire de ma part, je lui ai écrit une carte pour le féliciter parce que on en apprend pas seulement sur la médecine et la l'infectiologie mais également sur la recherche, ce sont des livres remarquables, ce sont des articles qu'il a publiés dans le Nouvel Obs, sauf erreur. Et pour un, c'est sa bibliographie qui est évidemment passionnante parce que c'est quelqu'un qui a un parcours, disons, qui va presque jusqu'au sommet de l'Everest. Et le dernier que j'ai lu, qui est aussi passionnant, Didier Raoult, c'est de voir à quel point c'est un individu nuancé, quelqu'un qui sait observer et réfléchir en dehors de tout préjugé, c'est sa méthode de travail. C'est un livre qu'il a sorti il y a quelques années. Passionnant.
Qui s'appelle La vérité sur les vaccins.
La vérité sur les vaccins. Voilà. En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. C'est le paradoxe du titre. Il faut savoir utiliser un vaccin, c'est ce qu'il dit, au bon moment, au bon endroit, pour les bonnes personnes. Et le bon vaccin, en l'occurrence.
Et le bon vaccin.
Voilà.
Très bien.
Voilà, j'ai passé un été à boucler.
Magnifique. Et est-ce que tu as d'autres projets maintenant de...
Attends, je m'excuse. J'ai oublié le livre d'Alexandra Orion-Claude sur les vaccins ARN, que je n'ai pas sous la main, qui est aussi très intéressant et très désespérant parce qu'il semblerait qu'entre la recherche et son aboutissement pour des vaccins qui soient efficaces et qui ne tuent personne, le chemin est, semble-t-il, encore assez long.
Ouais, c'est vrai qu'on en parlait en off, c'est les mêmes technologies qui sont au stade des essais cliniques pour les personnes qui ont le cancer et à cause des nombreux effets secondaires et ces mêmes plateformes technologiques ont été utilisées en masse pour le vaccin Covid, c'est quand même surprenant.
Mais c'est pas, non, on peut pas dire que c'est surprenant. On peut pas, une fois qu'on a lu le livre de Peter Goetsche, on peut pas dire que c'est surprenant. Ceux qui n'ont pas compris ce qu'est le capitalisme, moi j'ai le capital de Karl Marx derrière moi, dans le premier livre du Capital, on apprend ce qu'est la forme moléculaire du capital, c'est la marchandise. Le vaccin, c'est une marchandise comme une autre. On fabrique tellement d'objets inutiles, peu importe ce qu'on fabrique, ce qui importe pour un capitaliste, c'est que ça rapporte de l'argent. Donc, on est prêt à faire n'importe quoi, à vendre même des bombes nucléaires. On ne sait pas trop à quoi ça sert humainement parlant. Mais en tous les cas, pour celui qui les fabrique, ça rapporte un bénéfice considérable. Le capitalisme, c'est ça. Produire n'importe quoi pourvu que ça rapporte de l'argent. Que ce soit des mines antipersonnelles, des pseudo-vaccins, etc. On sait très bien, c'est Kouchner qui l'avait popularisé. Le 80% de ce qu'on trouve dans une pharmacie n'a pas d'effet connu au niveau de la santé publique. Il y a l'effet placebo ou nocebo, mais l'effet, la molécule elle-même, pour ce qui est des effets, le 80% des médicaments qu'on trouve en pharmacie n'ont pas d'effet reconnu. Mais ils rapportent de l'argent.
Ouais. Et voilà. D'ailleurs, les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de consommation de médicaments et c'est là où il y a la population des pays occidentaux qui est en mauvaise santé, en fait, globale. Il y a une anecdote avec Albert Bourla, donc le CEO de Pfizer, qui a dit dans une vidéo que quand ses scientifiques sont venus vers lui pour lui dire qu'on va utiliser les technologies ARN messager pour le vaccin Covid, il a dit qu'il avait été lui-même surpris.
Ben voilà. Ben maintenant, il est peut-être surpris des bénéfices. Hein.
Ah oui, alors ça, il a sûrement été très surpris. Ouais. En bien.
Bon, ben, ils paieront leurs amendes, comme d'habitude. Et puis, mais le bénéfice, la marge est telle que ça ne posera pas de problème.
Mmh, exactement.
Okay, soyons optimistes.
Exactement. Soyons optimistes. Un bon mot
de fin. Oui, parce qu'il n'y a pas que des perdants. Il n'y a pas que des perdants avec le vaccin. Il y a ceux qui meurent, mais il y a ceux qui gagnent du bénéfice.
Exactement, il faut aussi penser à eux de temps en temps. Merci Daniel, et puis une bonne fin d'été, puis à tout merci. Bientôt.
Merci bien, bonne journée, au revoir.
Vous souhaitez soutenir une information indépendante et engagée? N'hésitez pas à contribuer à notre projet radiolibre.ch. Merci.